J'écrivais avec une vitesse inconcevable. Avant que d'écrire, je ne savais pas ce que j'allais écrire. En écrivant, je voyais que j'écrivais des choses que je n'avais jamais sues. J'écris ce que je ne pense pas encore.
Stupéfiant, hilarant, bluffant, époustouflant, vertigineux, des mots à foison sont possibles pour commenter le théâtre de Valerno Varina qui lui-même use de toutes les possibilités du lexique, de la grammaire et de l'imaginaire. Depuis plus de 30 ans, ce maître de la parole invente une langue pour la scène avec une nouvelle création que l'on peut voir actuellement au Théâtre National de la Colline, l'animal imaginaire. Bonjour Valerno Varina.
Bonjour.
J'écris ce que je ne pense pas encore, ainsi commence votre spectacle. Est-ce que c'est un aveu?
Non, c'est quelque chose... Oui, j'écris ce que je ne pense pas encore, voilà. Le texte qui précède est de Madame Guyon. Madame Guyon, qui est une, disons, une mystique à l'état sauvage du fin XVIIe siècle. Et j'ai rajouté, j'écris ce que je ne pense pas encore, qui est... que j'ai trouvé dans un journal, enfin voilà.
Donc ça veut dire que...
Non, il y a quelque chose qui comment dire, le langage est hors de nous. Le langage ne nous est pas donné pour exprimer une intériorité ou un ensemble de convictions, etc. C'est pas du tout un outil, mais c'est une sculpture entre nous. J'ai toujours cette impression que il y a quelque chose se sculpte dans notre conversation, ou entre les acteurs, ou entre les gens qui se parlent ou se parlent pas. Mais il existe comme un animal. Les phrases, les conversations sont des animaux.
En tout cas, rien n'est jamais prévisible, selon vous, dans le langage. Il y a de l'inconnu, il y a de l'obscurité.
Ah oui, il faut que ce soit très peu calculé. Il faut que laisser les choses advenir. Par exemple, il y a eu quelque chose de très particulier. À un moment, il y a une fontaine de sang sur le plateau. Bon, c'est bien joli de verser du sang, mais ensuite, il faut l'essuyer parce que ça glisse pour les acteurs suivants. Donc, trois machinistes se sont mis à éponger le sang avec des serpillières, etc. Et quelqu'un m'a dit, il y avait un violoniste qui doit rentrer à ce moment-là, on va pas panosser le sol, comme on dit à Lyon ou en Savoie, c'est pour serpiller. On va pas panosser pendant qu'il joue du violon. J'ai dit, si, au contraire, allons-y. Et ce qui était très extraordinaire, c'est que les ouvriers ont changé d'outils. Ils ont pris des manches à balai, une sorte de serpillière au bout de perche. Et tout d'un coup arrive, le violoniste et son archet et les ouvriers avec le manche. Et ça crée quelque chose de très extraordinaire, de pas calculer. Voilà.
J'écris ce que je ne pense pas encore. Vous dites, Valerno Varina, que c'est une phrase de Madame... phrases trouvées dans un texte...
Non,
de...
c'est une phrase que j'ai rajoutée à Madame Guyon.
Et c'est en tout cas une phrase qui est dite par un personnage baptisé l'écrituriste.
L'écrituriste, oui.
C'est l'écrivain du futur ou au contraire
c'est aussi un souvenir
le premier écrivain, celui des origines.
C'est d'un artiste de l'art brut qui s'appelle Palan l'écrituriste. L'écrituriste qui était, je crois, pâtissier. Et ce mot d'écriturisme est revenu comme ça, aussi, qui est assez beau parce qu'on voit la plume comme le sculpteur creuse la pierre, que l'écriture creuse le langage dans le fond. Je me représente, travaille toujours comme un creusement. Et pas comme une domestique, pas faire défiler des animaux domestiques, mais creuser des puits dans le langage.
En disant cela, vous faites le geste d'écrire. Est-ce que vous écrivez à la main ou sur un ordinateur? Je vous pose la question parce que vous inventez tellement de mots, je pense que c'est un défi pour un correcteur d'orthographe.
Ben, il faut qu'il soit très patient. Avec parfois des choses... Quel est le pluriel pour un mille pattes? Comment est-ce que vous avez écrit des mille pattes? Voilà. Ou dans la pièce, il y a par exemple un bonarien qui est féminisé à une bonarienne. Mais ça, c'est un ami paysan en Savoie qui un jour m'a dit « Oh, c'est une bonarienne !» Ce qui était tout à fait extraordinaire pour élargir... Il y a une part d'invention dans la parole quand même. La parole est inventive.
Ce n'est pas que votre écriture qui est inventive, c'est la parole aussi des hommes,
entendez. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à enregistrer des gens dans la montagne qui parlaient patois magnifique avec des sons qui ont disparu, comme le Elle mouillée, par exemple, la bouteille, la famille, etc. Des sons presque comme le TH anglais, pour dire un chapeau en ayant sapé, ou pour en dire les gris, on dit des tmés. Il y a, des, voyez, il y a des, une richesse de la palette sonore qui n'est pas du tout en lutte contre, la, contre les beautés du français. Les paysans que j'enregistrais, ils avaient un très beau patois naturel, mais aussi un français parfait, avec, à force d'apprendre des fables de La Fontaine à l'école.
Des adjectifs qualifiant votre travail, Valère Novarina, j'en ai évoqué certains au tout début, ça peut être ces phrases comme ça qu'on entend à la fin des spectacles, mais on pourrait aussi rajouter philosophique, métaphysique, ludique, extatique, enfin tout en ic. Lequel vous convient le mieux?
Je sais pas, Peut-être mystique aussi, quand même, parce que.
Et mystique.
Voilà,
bien sûr.
Oui, j'ai pensé parce que.
Je vais essayer un vide pour vous permettre.
J'ai lu un. J'aime pas beaucoup ce mot qui bon, je préfère l'idée de, ou de raccrocher ou le rattacher le mystère au silence. Voilà. Mais pas le, mystique, ça fait un peu pharmacie, comme ça. Fait un peu, je sais pas comment dire. Sans gluten. Enfin, c'est quelque chose qui est déplaisant. Mais. Oui, hier, je voyais le spectacle, je disais, c'est vraiment une pièce sur l'Eucharistie aussi, hein, parce qu'il y a un repas satanique, et ensuite il y a un repas où on partage, et qu'est-ce qu'on partage? Peut-être le pain, mais aussi on partage le langage avec le public. Parce que c'est ce partage inégal entre le public et les acteurs qui est le fondement du théâtre. Ce qui me surprend, c'est pas qu'il y en ait 8 qui parlent, c'est qu'il y en ait 400 qui se taisent. On va au théâtre, se taire,
oui.
Et voir parler, voir le langage dans l'espace, alors qu'on le voit de moins en moins dans l'espace. Enfin, le langage est de plus en plus abstrait, il nous arrive à travers des écrans, des protections, des projections, des chiffres, etc. Mais retrouver l'animal de la langue sur le plateau. Et aussi retrouver la palette grande ouverte de notre langue.
Alors on
va des couleurs.
Entendre et voir, peut-être imaginer quelques extraits de L'Animal Imaginaire, votre spectacle. Mais après cela, Stéphane Escher, l'un des Suisses les plus déprimés que je connaisse, il sort un nouvel album, Homeless Song, et il nous raconte, entre autres, l'histoire d'un ver de terre.
Wakes up a butterfly, oh what the fuck is that about? What the fuck is that about?
Extrait du nouvel album de Stéphane Escher sur RFI, où l'on vous raconte aujourd'hui l'histoire de L'Animal Imaginaire, la nouvelle pièce de théâtre de Valère Novarina. Alors, histoire ne convient pas tout à fait, je trouve, pour raconter ce spectacle, cette pièce, Valère Novarina, ou alors il faut mettre beaucoup de S. Quelle était l'intention première de cet animal imaginaire?
Oui, la question de l'histoire, je me pose souvent la question et je me dis, dans le fond, le récit est rythmique. C'est le rythme qui raconte quelque chose. Et c'est en cela que le spectacle est inspiré du cirque. Beaucoup. Mon père a été un fanatique de cirque. Il allait dans la loge des Fratellini, etc. Et ce qu'il y a de très beau au cirque, c'est que celui qui entre apporte un nouvel espace. Donc, à chaque scène aussi, on apporte un nouvel espace. C'est un espace très, très mobile, très, très meuble, très aérien, effervescent, avec des peintures qui vont, qui viennent, se retournent, etc. L'idée d'un outillage léger.
Et pas... Des peintures et un décor qui sont de votre main.
Voilà,
aussi,
voilà, voilà.
Vous écrivez et peignez.
Votre question, c'était...
Ma question, c'était quelle était l'intention première de ce projet, l'animal imaginaire. Est-ce que c'est l'idée que nous sommes des animaux, tous, autour de cette table, dans le monde, qui ont acquis le langage?
Oui, interroger sans arrêt le langage dans ses paradoxes, le langage qui nous a servi et qui nous délivre. Enfin, parfois, en caricaturant un peu les mots, je dis que les mots nous asservissent, mais la parole nous délivre. La parole, entendue comme les mots dans un état de combustion, de respiration, de contradiction, etc. Et j'ai toujours la sensation, parfois des idées fondamentales qui sont des choses que l'on touche sans pouvoir vraiment en parler, la sensation que la respiration animale préfigure la pensée. Voilà, que la pensée, elle aussi, renverse, passe par la mort, renouvelle, etc. Il y a une sorte de résurrection permanente de la vraie pensée, qui détruit les mots, enfin, qui les croise avec l'espace et le temps.
Mais quelle est la différence entre l'homme et l'animal à ce moment-là? C'est la parole, c'est le langage?
Et ben là aussi, on propose une phrase un peu inquiétante qui est dans le spectacle, c'est « Ah, mais dit l'homme, je descends pas de l'animal, j'y vais. » Voilà. C'est aussi...
Mais ça veut dire quoi?
Ça veut dire que peut-il y a un processus de déshumanisation qui est en cours quand même, de mécanisation générale, enfin qui s'observe enfin partout, mécanisation du langage, tout est slogan, tout est je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de mourir. Et contre ça, l'incarnation, le langage dans votre corps, sur le corps de l'espace de la page, sur scène, etc. Retrouver la vie sanguine, la pulsion du langage, rendre le langage incandescent, enfin vivant.
Et jouissif. Parce que dans tous les adjectifs qu'on pourrait évoquer à propos de votre travail, Valère Novarina, il y a cet adjectif-là, jouissif. Il y a du plaisir, du bonheur à voir les acteurs sur scène, à catapulter comme ça les mots, à les faire exploser, à les réinventer,
retrouver,
à les décortiquer.
Retrouver le langage comme zone érogène, quand même. Voilà, qui a une sorte de joie, d'extase aussi, parfois, que le langage est un endroit de joie. Il y a, de n'importe quelle situation, l'homme sentir par une formule, alors j'ai beaucoup à un moment collecté les dernières phrases que prononçaient les hommes célèbres ou pas célèbres avant de mourir, et par exemple, bon, il y a Goethe, plus de lumière, d'accord, bon, mais Jarry a dit, passez-moi un cure-dent.
Des choses comme ça, des choses qui restent. Comme dernière phrase.
Oui.
Donc vous arrivez à...
L'idée que le langage triomphe de la mort. Voilà. Il y a une actrice qui récite une 400 temps d'hiver, des temps qui nous attendent au tournant, comme tous les temps. Mais je lui dis, ça doit pas du tout être triste, c'est aussi joyeux parce que la parole délivre. Voilà. Il y a une petite banderole à la fin qui est là pas très longtemps parce que qui est le Messie, c'est la parole quand même. Voilà.
Exemple de votre spectacle, exemple assez hilarant dans la pièce, un personnage décide de régler la question du genre en effaçant les E trop masculins et les A trop féminins et de tout remplacer par des U.
U-S-U-T-U-L-U. As-tu remarqué, Andrea, comme notre langue surabonde de sons inutiles, pléthore de voyelles, gaspillage de consonnes superfétatoires. Ô vain diphtong. Trop de phonèmes en français, Andrea, sont les souvenirs de l'ancien régime. Aplanissons, équalisons, répondons le U pacifieur et réunificateur. Le cheval, le jument, le maman lit, le journal, le papa plus le poiru.
Vuluru nu. Est-ce que vous êtes un homme sérieux? Quand on entend ça, on peut en douter.
Oui, vous avez raison de douter.
On ne cédera pas une demi-heure comme ça.
Je crois qu'il y a un pays nordique, je ne sais plus si c'est le Danemark, la Suède, je ne sais pas quoi, où en effet, ils ont trouvé une voyelle qui est pour apaiser les luttes entre les féministes et les non-féministes. Il y a une voyelle réconciliatrice.
Et donc, ce serait, enfin, pour vous, c'est le U, en tout cas.
Oui.
Dans l'animal imaginaire, on rit beaucoup, on l'a entendu court extrait. Comment vous entendez ces rires? Parce que je vous regardais au théâtre, on était exactement sur la même rangée, vous étiez au bout, et vous étiez quand même impassible, alors que tout le monde se gondolait dans le théâtre.
Ah non, je ris aussi, alors.
Vous riez aussi, souvent. Je vous ai pas vu
rire. Pas forcément
rire,
chaque fois au même endroit, etc.
Vous connaissez le texte.
Moi, je pense pas du tout comme Baudelaire, que le rire est satanique, je pense que le rire est baptismal. C'est tout d'un coup se laver la tête, c'est de l'eau froide, c'est une rivière, un torrent dans le cerveau, et le rire nous nettoie. Voilà.
Le rire est là, même si vous parlez de la mort, et je trouve que dans ce spectacle, il y a des zones d'ombre, il est question, vous parliez d'Eucharistie, il est question quand même beaucoup de la mort. Vous signalez, cela dit, qu'il n'y a qu'un R de différence entre le mot « mot » et le mot « mort ». Est-ce que c'est une idée fixe pour vous, la mort? Puisque vous dites que vous écrivez autour d'idées fixes.
C'est peut-être bien une idée fixe, aussi très, je sais pas... Comment dire? En fait, si vous voulez, je n'ai jamais vu de mort. Et je ne peux pas en voir parce que je m'évanouis aussitôt. Voilà. Donc c'est peut-être une obsession qui vient de je ne sais pas où, des fins fondamentales. Mais là, la mort est sans arrêt présente. Les acteurs se suicident à tour de bras, mais ça n'est pas déprimant.
Enfin, c'est jamais.
Au contraire, je pense que le théâtre doit aussi nous redonner du courage pour le lendemain.
Et il y a toujours cette jouissance des mots, cette jouissance du langage, de la parole, la jouissance des noms aussi, des noms de personnages que l'on retrouve d'ailleurs dans toute votre œuvre depuis une trentaine d'années, et que ici, dans l'animal imaginaire, vous nommez la théorie des peuples.
Nous sommes les écarniciens monopatrides, trifidrageurs, lanceurs de sorts du Nord-Poitou. Nous sommes réellement mal intentionnés.
Nous sommes les néantistes bordorés. Sexuellement, nous sommes intransmissibles. Nous sommes les énervés de Firmini. Nous chaussons généralement soit du 41, soit du 53, et jamais entre les deux.
Nous sommes les têtus du sud-ouest. Nous entourons nos morts d'une volvaison de triple cercle avant de les passer par les chemins inverses de la vie pour qu'ils ne s'y retrouvent plus.
Nous sommes libres et hypostasiens.
À nous, les posthumiens.
Et ainsi, la liste continue, Valère de Varina, dans l'animal imaginaire, votre pièce. Cela vient d'où, cette folie des noms? C'est un souvenir d'enfance? Faut être enfant pour inventer
ces noms? Je sais pas, peut-être aussi, vous savez, en Savoie, dans la montagne, à Morzine, tout le monde s'appelle Beau, à Auget, tout le monde s'appelle Ducretet, à Vailly, tout le monde s'appelle Châtelain. Donc, il y a des surnoms. J'ai récolté des surnoms qui étaient comme autant de croquis, de caricatures aussi parfois, qui décrivaient la démarche de quelqu'un ou son trait de caractère principal. Donc on a plusieurs noms, en savoir. On a son nom officiel et puis il y a le nom en patois, le sobriquet.
Vous dites que vous avez 6317 noms en réserve pour vos spectacles.
Oui, non, dans mon chantier, j'ai un endroit qui s'appelle le vivier des noms, donc dès qu'un nom vient, je le mets là, et j'ai l'impression qu'ils se finissent par se reproduire d'eux-mêmes comme des poissons. Et là, je me suis aperçu que dans le drame de la vie, il y avait 2587 noms, et depuis, les noms ont continué à affluer sans que je leur demande rien. Mais il y en a 6000 et quelques, je vais peut-être en faire quelque chose. Voilà, je sais pas quoi.
Parce que vous n'avez pas encore épuisé le vivier des noms.
Le coup à ce vivier.
Alors, votre théâtre suppose des acteurs quand même assez fabuleux et très physique. Vous-même, vous avez une passion, je crois, pour Louis de Funès, puisque vous lui avez consacré un livre. Et vous différenciez dans ce spectacle l'acteur véritable de l'imitateur de l'homme.
Oui, resterait à dire ce qui distingue l'acteur véritable d'un imitateur d'homme.
Qu'est-ce qui distingue l'acteur véritable de l'imitateur de l'homme?
L'acteur véritable agit vraiment, et l'autre reproduit la figure humaine comme elle est autour de nous, et il singe l'homme. Voilà, il singe l'homme. Je me souviens, dans le fond, un grand adversaire de toutes les sciences humaines. Je pense que l'homme n'a pas encore été capturé.
Donc l'acteur, votre acteur, l'acteur novarinien, c'est celui qui fait émerger les mots et mène autant d'actions qu'il est possible.
Oui.
Il ne dit pas juste un texte.
Il y a une suractivité des ondes du langage, enfin dans le public aussi, il y a une sorte de... Et puis au théâtre, le langage rebondit sur des objets. Enfin aussi, le langage aussi traverse votre voisin avant vous. Il y a une sorte de circuit matériel du langage tout à fait extraordinaire.
En tout lieu où nous nous rendons, nous nous félicitons de bénéficier de la présence de nous-mêmes.
Il faut que j'aille dans l'antimonde et que je discute avec des anti-personnes, et que de l'anti-lumière se répande sur les anti-objets. Il faut que j'entre dans un anti-homme.
Sans l'homme ou avec l'homme, l'histoire de l'univers va au même trou.
Je respecte beaucoup le réel, mais j'ai jamais cru.
Le parler novarinien, c'est aussi ces phrases qui sont comme des viatiques et qu'on emporte avec soi après le spectacle. Est-ce qu'il faut vous prendre au pied de la lettre, Valère Novarina? Vous ne croyez pas au réel? Comment ne pas croire au réel?
Ben, je pense il me semble qu'il y a toujours un réel sous le réel. Il y a toujours des pots ou des rideaux qui tombent sans cesse. Mais il n'y a pas de... C'est sans fin et sans fond. Je pense qu'on vit une sorte de miroitement de... Je ne sais pas comment dire tout ça, mais il n'y a pas de... Il y a une effervescence des choses, et en tout cas, tout existe dans la... Tout n'est que dynamique. Je suis tout à fait un adversaire de la notion d'être. Je déteste Heidegger, je déteste tous les gens qui après moi être, mais je suis plutôt du côté du renouvellement torrentiel des choses par le langage et de leur renversement par la respiration.
Donc on n'en a jamais fini avec le langage?
Ah non, non.
Mais vous le respectez, le langage, ou vous n'y croyez pas? Oui, vous y croyez plus que tout autre.
Ben parfois, je le mets dans des positions délicates, parce qu'il y a une phrase que dit Dominique Parent qui assure paisiblement qu'aucun triangle n'a trois côtés. Alors, à partir de ça, la vie peut devenir difficile si aucun triangle n'a trois côtés.
Vous dites aussi que toute pensée, que toute parole doit forcément mettre en... Alors, c'est pas le mot danger, mais en déséquilibre.
Le déséquilibre, l'idée que, oui, la marche a lieu parce qu'on est... Les corps est en déséquilibre, donc ils marchent, et que la pensée est en déséquilibre. Les penseurs stables m'endorment aussitôt, et j'aime le renversement, le déséquilibre, enfin... La marche en montagne, enfin Nietzsche, enfin tout ce qui est renversement des choses.
Et ce qui nous rend vivants.
Voilà.
Valère Novarina, si je vous dis puce et oreille, peut-être que ça vous gratte, mais pour moi cela veut dire que Lucie Bouteloup va nous susurrer à l'oreille une expression de son cru.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Alors aujourd'hui,
la puce va tailler une bavette avec Alain Rey. Tailler une bavette, mais de quelle bavette s'agit-il ici au juste? Eh bien, Alain Rey et nos apprentis linguistes passent justement notre expression au grill. On les écoute tout de suite.
Je prends la bavette et comme le bébé ne veut pas manger, ben je le range. Je range la bavette.
Tailler une bavette, ça veut peut-être dire que tu prends une bavette et tu essaies de lui donner une forme.
Tailler une pomme de terre,
ça veut dire peut-être tailler la bave.
Par exemple, ça veut dire que tu as des ciseaux et tu, avec la bave, tu essaies de la couper.
Tu écris avec ta bave.
Je fais une espèce de petite bouillie et après je mélange avec un bâton. Et ça fait un peu une bave.
Je taille mon crayon à papier avec une bavette.
Une bavette, c'est quelque chose que ça sert à aspirer l'encre.
Je taille quelque chose avec ma bave.
Je taille une pomme et dedans, il y a un ver de terre qui bave.
Je vais mettre une bavette dans un plat et je vais la couper pour que ce soit joli dans le plat.
La puce à l'oreille.
Alors Alain Rey.
C'est merveilleux, je trouve. Ça prouve que la langue nous apporte de l'imaginaire, ça, c'est merveilleux.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, tailler une bavette?
Tailler une bavette, c'est avoir une conversation sur un sujet léger en général, c'est-à-dire échanger des menus propos, c'est lié à l'idée de bavardage et de bavarder, voilà.
Est-ce qu'il s'agit de la bavette du boucher? Est-ce qu'il s'agit du bavoir du bébé? De quelle bavette s'agit-il?
Ben, je pense que les enfants l'ont perçu souvent, c'est bien le radical du verbe baver, c'est-à-dire que il y a cette idée un peu comique et populaire qui est que quand la parole n'a pas un sens extraordinaire et n'est pas d'une importance folle, on retient l'idée de baver. Bavasser, qui veut dire parler aussi pour ne rien dire. Et c'est le bavardage qui lui aussi vient de la même racine. Alors l'avocat était appelé par les argotiers un baveux ou un bavard. Et pourquoi tailler? Parce que on taille des propos. L'idée de tailler, c'est de débiter. On débite ce qu'on raconte. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu l'idée que la parole, elle est coupée en petits morceaux et qu'on la présente successivement aux interlocuteurs.
On la taille, on la sculpte. Il y a donc aussi l'idée de sculpter son langage et donc de parler avec éloquence.
Parler avec éloquence, mais parler, disons, sans raison très 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 sérieuse, parce que sinon, on n'évoquerait pas la bave, ni le bavardage. Le bavardage, par définition, c'est le plaisir d'échanger, mais c'est pas de discuter sur des choses extrêmement sérieuses. Donc, il y a de la légèreté dans le bavardage, c'est plutôt sympathique, et on a perdu un peu l'idée du côté un peu pas très propre qui était au départ dans l'idée de la bave, voilà.
Alors, c'est Furtière qui dit « Les femmes vont tailler des bavettes bassement quand elles s'assemblent pour caqueter ». À l'époque, on disait « tailler des bavettes » et le pluriel indiquait souvent une expression péjorative.
Oui, oui, ben là, ça représente cet antiféminisme qui est constant dans la langue à l'époque. Et comme par hasard, le bavardage, le caquetage, c'est-à-dire l'échange de paroles sans grande signification, est attribué aux femmes. L'idée du caquetage, c'est l'idée des animaux de basse-cour, hein, des oies ou des poules qui caquettent, et on rapproche ça de cette idée de bave qui était plutôt destinée à décrire la parole des enfants ou des gens bavards. Donc en fait, là, il y a une volonté de déprécier, mais la langue sait résister contre les mauvaises tendances, parce que aujourd'hui, tailler des bavettes n'a rien de péjoratif, c'est simplement être avec des copains, être content d'échanger des menus propos, comme on dit, et voilà, sans nullement baver.
Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme à cette expression? On peut dire tailler le bout de gras?
Oui, alors le bout de gras, c'est dans la parole, dans l'échange, si vous voulez, la façon de débiter des propos, et comme le boucher débite des morceaux de viande. Et c'est vrai que le bout de gras, ça n'a rien de positif là dans ce cas-là. La bavette est plus sympathique.
Faire la causette, bavasser, on a dit, avec l'idée de bavasser, c'est quand même un peu péjoratif.
Ah, c'est très péjoratif, bavasser, parce que c'est dire du mal de quelqu'un, bavasser sur quelqu'un.
Oui, c'est comme quand on dit baver sur quelqu'un.
Baver sur quelqu'un et cracher est encore pire. Il y a des nuances et des gradations dans l'usage des métaphores.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Alain Rey. Je suis ravie d'avoir taillé la bavette avec vous dans cette puce. Et puis, je vous donne rendez-vous une très prochaine fois pour une autre puce à l'oreille.
À très bientôt.
Merci à vous, Lucie, Valère Nouvarina. Je vous imagine grand lecteur d'Alain Rey et de son dictionnaire historique de la langue française.
Oui, j'en ai plusieurs à portée de la main.
Pour aller chercher comme ça des mots, des racines, des étymologies et réinventer le langage à partir des sources, en fait.
Voilà.
Merci beaucoup, Valère Nouvarina. L'animal imaginaire se joue au Théâtre National de la Colline à Paris jusqu'au 13 octobre. Et le texte est publié chez POL. Et alors, pour tous ceux qui imagineraient que le Novarinien est absolument intraduisible, je dois donner la date du 5 octobre, puisque vous êtes au Théâtre de la Colline avec une dizaine de vos traducteurs grecs, hongrois, russes, japonais, etc., etc. Ça doit donner des conversations palpitantes. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.